La radio CFAQ 88.3 FM et les étudiants et étudiantes pro bono du Canada, section Université de Sherbrooke, vous présentent le balado pro bono pour l'accès à la justice.
Bonjour et bienvenue au deuxième balado pour l'accès à la justice de Pro Bono étudiants Canada. Donc moi je m'appelle Alice et je suis accompagnée aujourd'hui de
Amy
et Camilla.
Et notre invitée de cette semaine c'est Maître Julie Beauchemin. Donc Maître Beauchemin, est-ce que vous voulez vous présenter un peu?
Certainement. Alors moi, je pratique majoritairement en droit criminel et droit de la jeunesse. Je suis là depuis plusieurs années dans le district ici à Sherbrooke et je pratique aussi en Beauce, Thetford Mines et Lac-Mégantic.
Super, donc on est vraiment contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc le balado d'aujourd'hui va traiter de la violence conjugale. Premièrement, on va commencer avec quelques petites définitions pour rentrer dans le sujet. Alors, je vais commencer par parler d'une voie de fait. Selon le dictionnaire en ligne du CAEJ, la voie de fait, c'est l'utilisation intentionnelle de la force contre une autre personne sans son consentement. Mais ma question pour vous, Maître Beauchemin, c'est est-ce qu'il y a différents types de voies de fait?
Effectivement. Il y a plusieurs types de voies de fait. On peut parler dans le code criminel de voies de fait, par exemple, des menaces. On peut parler des voies de fait qui sont physiques, alors user la force contre quelqu'un. Et on peut parler aussi des voies de fait là, au sens plus large, comme une agression sexuelle est un voie de fait. Alors, il y a plusieurs façons de concevoir ce concept-là et on peut retrouver ça au code criminel.
OK. Puis aussi, j'ai lu dans un article du Devoir l'utilisation de crime contre la personne. Est-ce que c'est un mot qui est utilisé en droit ou c'est plus un mot populaire?
Non, c'est un mot qu'on utilise en droit qui englobe quelque chose d'encore plus large. Là, on parle, par exemple, là, d'homicide. On parle, écoutez, il y a carrément une section du code criminel. Là. Ça vise une infraction comme le harcèlement criminel, vraiment un crime qu'on fait envers une autre personne. Je pense que c'est assez clair le terme et c'est utilisé en jurisprudence canadienne.
OK. Puis aussi, je vous ai entendu parler de harcèlement criminel, mais c'est quoi la différence entre harcèlement criminel et non criminel?
Bon, quand on regarde là, l'article là, qui est lié au harcèlement criminel, on peut voir là, que la personne doit savoir ou ne pas se soucier que l'autre envers qui on fait une action se sent harcelé. Et ça doit être une crainte qui est raisonnable, envers sa sécurité. Et là, dans la jurisprudence, on a fait une certaine différence parce que juste se sentir inconfortable ou être inquiet, c'est pas du harcèlement criminel. La crainte qu'on doit avoir, c'est pas nécessairement d'être non plus terrifié, mais c'est d'avoir une crainte objectivement raisonnable. Donc, d'autres gens qui pourraient voir le scénario et regarder le contexte dans lequel on se trouve aussi, parce que le contexte est examiné pour savoir justement si c'est objectivement raisonnable et subjectivement raisonnable. Donc, ça doit aller un petit peu plus loin que l'inquiétude, mais pas aussi loin qu'être terrifié.
OK, c'est bon. C'est très bon à savoir. Donc, ensuite, je vais entrer plus en détail dans la violence conjugale. Selon Éducaloi, la violence conjugale ne se limite pas aux coups et aux blessures physiques. Elle couvre plein d'autres comportements, dont les comportements, en fait, que vous avez mentionnés tantôt. C'est juste que la violence conjugale se passe soit dans un couple, dans une ancienne relation. Ça peut être avec un ex-conjoint. Donc, c'est ça. Puis, moi, ma question pour vous, c'est est-ce que le code criminel prévoit particulièrement des crimes de violence conjugale?
Non, on prévoit pas de... En fait, c'est les mêmes crimes pour tout le monde. Par contre, dans le code criminel, il y a des spécificités sur la violence conjugale comme en termes de facteurs aggravants. Donc, si on commet une infraction, ça va être aggravant que ce soit fait sur un partenaire intime. Puis partenaire intime ici, là, c'est pas juste d'être en couple avec une personne, ça peut être aussi une personne, là, amie intime, là, je veux pas...
OK.
Vous savez de quoi je parle, puis ça vise vraiment toutes les relations qu'on pourrait entretenir avec des gens là, de façon intime.
Dans le fond, quelqu'un à qui on fait confiance, est-ce que c'est...
Faudrait pas aller si large que ça, je pense, parce qu'on pourrait se le faire reprocher dans un procès, par exemple, ou au niveau de l'autorisation d'accusation, mais c'est vraiment quelqu'un qui est intime.
Là. OK.
J'ai une question. Est-ce que la violence verbale, c'est criminalisé dans le code criminel ou c'est vraiment plus un phénomène de notre société d'aujourd'hui que ça a été inclus dans la définition?
Bien, tout dépend de c'est quoi les mots qui sont employés, parce que il y a ce qu'on appelle des menaces, et ça, c'est criminel de menacer quelqu'un de lésion ou de mort, mais la violence psychologique, c'est pas tout à fait codifié. Il faudrait vraiment qu'il y ait des menaces à proprement parler. On peut par contre voir, là, il y a certains engagements qui peuvent se prendre quand on subit de la violence psychologique, comme vous dites, là, les menaces. On parle plutôt d'un article 810. Puis ça, c'est une protection pour les gens quand ils subissent ce type de violence-là, qu'ils peuvent aller demander au tribunal. Puis ils peuvent demander ça même par eux-mêmes, là, même sans représentation par avocat.
Puis vous avez parlé de facteurs aggravants. Ça a quelle envergure dans une poursuite?
En fait, quand on parle de facteur aggravant, c'est parce qu'on est rendu à la peine. Donc, la personne, elle a été reconnue coupable, soit elle a plaidé coupable, ou soit c'est au terme d'un procès. Mais le juge va devoir considérer la relation entre les parties. Donc, si c'était des anciens conjoints, la peine doit être plus importante en raison de ça, parce qu'on veut vraiment marquer un désaccord envers ces conduites-là dans une relation de confiance.
OK. D'ailleurs, ça m'amène à parler du genre de personnes qui sont touchées par ces crimes-là. Est-ce que, selon vous, il y a des préjugés quant au type de victimes qui vivent ce genre de violence?
Bien, je pense que les femmes sont plus portées à venir dénoncer ces comportements-là. Cependant, moi, avec mon expérience, je vois beaucoup d'hommes qui subissent de la violence psychologique, qui subissent des menaces, même qui subissent de la violence physique et qui ne vont pas porter plainte parce que, encore en ce moment, il y a des préjugés sur ça. Ils ont peur de ne pas être crus parce que c'est des hommes envers des femmes. Donc, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de violence que les hommes subissent. Puis, c'est parce qu'ils vont pas faire le pas de plus, ils vont pas aller porter plainte.
OK, ouais, c'est ça que j'avais cru comprendre aussi, là. Parce que, en effet, dans les statistiques, il y a beaucoup plus de femmes qui ont déclaré n'en avoir vécu, mais c'est ça, si les hommes portent pas plainte, dans le fond, on verra pas ça dans les statistiques. Oui.
Est-ce que parfois, dans votre pratique, est-ce que vous avez remarqué que souvent on va accuser l'homme plus facilement, puis finalement, comme là, on va creuser un peu plus loin, puis c'est la situation contraire. Donc, est-ce qu'on est plus porté vraiment à l'accusation des hommes dans ces situations-là?
Ce que je pense de cette situation-là, c'est qu'effectivement, souvent, c'est vraiment partagé, la violence. On parle de couple toxique. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que les deux personnes sont toxiques. Les deux personnes font certaines actions, mais ça va être la femme, par exemple, qui va porter plainte et l'homme ne va pas le faire. Donc, l'homme va subir son procès, mais souvent, il y a beaucoup de choses à dire. Puis, ils ont beaucoup d'éléments à soumettre au juge, justement par rapport au contexte, parce que eux aussi, souvent, là, c'est vraiment de part et d'autre.
Puis, dans une situation comme ça, on est rendu au procès, les deux, on réalise que finalement, la situation est toxique de chaque côté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'abandon de la poursuite?
Malheureusement, s'il y a une infraction qui a été commise, et au terme d'un procès, on remplit tous les éléments essentiels du crime, la personne va être reconnue coupable. Même si l'autre personne lui a fait des menaces, on n'est pas dans le procès de l'autre personne. Ça, on doit le répéter souvent aux gens. Donc, si on n'a pas porté plainte, ben la personne ne subira pas de procès. Mais ça va nous aider à établir un contexte avec comment la relation s'est déroulée. Et ça joue un peu sur la culpabilité morale de la personne du fait qu'elle a subi elle aussi de la violence.
Puis,
mais à proprement parler, le plaignant qui est dans le procès ne va pas, on va pas lui porter des accusations en plein procès, par exemple.
Non, exactement. Puis la preuve qui est soumise au tribunal durant ce procès-là, est-ce qu'elle va servir, par exemple, nous, en tant qu'avocats, si on représente la partie adverse qui a eu des accusations contre nous, est-ce qu'on va pouvoir se servir de cette preuve-là pour un autre procès ou c'est des démarches à recommencer?
En fait, c'est sûr qu'il faudrait recommencer ces démarches-là.
Mais si la personne, justement, vous dites, les deux personnes sont toxiques, se sont faites les deux des menaces, voies de fait, etc., est-ce que comme on peut entrer dans la légitime défense ou c'est comme...
La légitime défense, c'est plutôt en matière de violence physique. Là.
OK.
Donc, il faudrait vraiment qu'on soit attaqué et que pour répondre à cette attaque-là, on utilise une force raisonnable pour repousser.
Okay.
Mais on n'a pas ça en matière de violence verbale.
OK, parfait. Donc, excuse-moi. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il y a des indices qui font qu'on reconnaît la violence conjugale ou la violence familiale que quelqu'un a envie, dans le fond?
Ben, on voit certaines personnalités de gens là, qui se retrouvent souvent dans un cycle continuel de violence. D'un côté, les agresseurs, là, si on peut les appeler comme ça, ce sont souvent des gens qui sont très manipulateurs, qui vont avoir une belle relation au début, puis là, ça va se gâcher. Des gens qui veulent prendre un certain contrôle sur l'autre. Et en contrepartie, on a souvent des gens qui recherchent justement une prestance chez une autre personnes et qui vont se retrouver dans une situation où eux, ils vont être vulnérables parce que souvent, c'est des gens qui prennent pas beaucoup de place, qui vont pas répondre quand on va les attaquer ou verbalement, qui vont pas avoir... c'est qu'ils ne vont pas se défendre verbalement non plus. Donc, on voit souvent ça. C'est un peu typique. Je ne voudrais pas dire que dans tous les cas, c'est ça, mais c'est un portrait qu'on voit très souvent, celui-là.
OK. Oui.
C'est quoi l'impact d'avoir des enfants mêlés dans le dossier de violence conjugale? Parce que vous ne voulez pas, quand tu as le papa et maman qui chicanent, vous ne voulez pas, ça affecte aussi les enfants.
Effectivement.
Est-ce que c'est une circonstance aggravante? C'est quoi l'impact sur le dossier?
Malheureusement, il y a souvent des enfants qui sont impliqués dans ce genre de scénario-là. Ce qu'on va voir arriver, parce que je fais aussi du droit de la jeunesse, on va voir arriver la DPJ. Et là, la DPJ va... essayer de faire la lumière sur cette situation-là parce que c'est un motif de compromission aussi au niveau de la DPJ de subir des, on appelle ça un mauvais traitement psychologique quand les parents se chicanent ensemble. Ça crée là, beaucoup de choses chez un enfant, beaucoup plus qu'on pourrait penser. Mais ça, c'est plus l'aspect DPJ, eux qui vont entrer dans le dossier, ils vont offrir des services. Et là, il va y avoir une certaine audition aussi pour voir si effectivement, il y a des motifs de compromission, puis on devrait protéger cet enfant-là.
Puis en tant qu'avocate, vous allez seulement référer à la DPJ, allez-vous aller en parler à une collègue qui est en droit familial, comment ça
c'est
se passe?
C'est que la DPJ, ben, moi je fais du droit de la jeunesse qui est à la Cour du Québec. Comme le droit criminel, c'est la Cour du Québec aussi qui gère ça. Le droit familial, c'est la Cour supérieure. Donc, c'est vraiment un autre tribunal complètement. Le DPJ, moi je fais les deux, donc tu sais, je peux vous répondre. Ce qui va arriver, c'est que nous, personne appelle la DPJ, en fait, c'est pas l'avocat. Ça va être soit un appel anonyme ou quelqu'un de la famille, un professeur. Ça va être des gens qui vont percevoir une situation dangereuse pour l'enfant et qui vont appeler. Donc là, après ça, il y a une intervenante sociale qui va se déplacer pour évaluer cette situation-là. Est-ce qu'on va retenir le signalement ou pas? Et là, si ce signalement-là est retenu, ben là, on va regarder est-ce qu'il y a un motif de compromission, puis est-ce qu'on doit offrir les services à cette famille-là? Je vous dirais, la DPJ arrive très, très souvent rapidement dans ce genre de situation-là.
Puis par rapport à la situation familiale, on parle un peu aussi on pourrait parler un peu des mineurs. Qu'est-ce qui arrive lorsque c'est le mineur qui commet la violence conjugale?
En fait, là, on se trouve à être encore en Cour du Québec, mais on va être en Chambre de la jeunesse. Donc, c'est une autre loi qui s'applique. C'est pas le Code criminel, c'est la loi sur la justice pénale pour les adolescents. Et dans cette loi-là, c'est sûr que les peines, c'est vu de façon très différente. Les objectifs de cette loi-là sont différents aussi. On est là pour plus une réhabilitation. Donc, on essaie de montrer aux jeunes que, par exemple, ce comportement-là, dans notre société, c'est pas quelque chose qui est permis, c'est pas quelque chose qui est autorisé. Donc, on est là pour une certaine dénonciation, mais c'est pas comme le code criminel où c'est très punitif. On est là dans l'apprentissage aussi. On essaie de prendre les jeunes rapidement pour pas qu'ils évoluent en tant qu'adultes puis qu'ils continuent de commettre ce genre de crime-là.
OK. Donc, ça serait quoi le genre de... Ben, je ne sais pas si on peut appeler ça une peine, mais le genre de peine qu'un jeune pourrait recevoir, justement?
Oui, ben les jeunes, ce qu'ils vont recevoir souvent, ça va être des travaux communautaires. Donc, il peut avoir aussi des procédures de conciliation, donc reparler à la victime, faire des lettres d'excuses, essayer de rétablir une médiation entre les parties. Quand, là, c'est sûr que la victime, à ce moment-là, il faut qu'elle soit d'accord, parce que ça ne peut pas se faire sans l'accord de la victime. Mais encore une fois, on est dans les méthodes alternatives. Il y a de la mise sous garde qui existe, mais ça prend un jeune qui a un passé plus lourd, qui a plusieurs dossiers, là, parce qu'on appelle ça des dossiers. Ce n'est pas un casier judiciaire quand on est adolescent, c'est des dossiers judiciaires.
OK.
Puis, étant donné que c'est beaucoup basé sur la réhabilitation, est-ce que les conséquences de ces actes le suivent toute sa vie, comme par exemple avec un casier judiciaire lorsqu'on est adulte?
C'est ça. La différence avec quand on est adolescent, c'est qu'on bénéficie de la confidentialité. Donc, n'importe qui du public qui voudrait voir, bon, ce jeune-là, est-ce qu'il y a des démêlés avec la cour, on ne pourrait pas savoir parce qu'on irait dans les ordinateurs au palais de justice, on ne verrait rien. C'est confidentiel. C'est certaines personnes qui ont accès à ces informations-là, comme les policiers, là. Mais sinon, les gens du public, là, même les avocats, nous, on ne peut pas aller chercher un plumitif là, donc, d'un jeune adolescent, mais on pourrait pour n'importe quelle personne qui est majeure. Alors, le jeune est protégé d'une certaine façon. Disons, son employeur ne pourrait jamais savoir ça. Et ce n'est pas un casier judiciaire. Donc, si cette personne-là allait aux États-Unis, elle n'aurait pas à dire « j'ai un casier judiciaire », c'est un dossier judiciaire. Donc, c'est très différent en termes d'impact et c'est des dossiers qui s'effacent. Donc, c'est sûr que si on est à l'âge adulte puis on recommet des crimes, ben là, le dossier va nous suivre. Puis là, on va le voir apparaître. Mais sinon, ça demeure confidentiel.
OK. Donc, okay. Fait que, mettons, si j'ai fait justement le crime quand j'avais 16 ans, quand je vais avoir 18 ans, ça va être partie de mon dossier?
Habituellement, il y a une période, là, puis ça dépend du crime. Est-ce que c'était par acte criminel? Est-ce que c'était par infraction sommaire? Puis il y a un délai qui est lié à ça. Est-ce qu'on a eu une absolution? Donc, selon le type de peine qu'on a eu aussi, il va y avoir un délai d'effacement qui va être différent. Puis quand je vous dis là, que le dossier d'un jeune va peut-être le suivre à l'âge adulte s'il fait d'autres choses, c'est en termes de cours. Donc, moi, je vais l'avoir accès en tant qu'avocate dans mon dossier, mais les gens du ils ne pourront pas plus aller chercher son dossier jeunesse.
OK.
Mais moi, je vais en avoir accès en tant qu'avocate.
OK. Donc, il ne devient pas public
non,
après,
pas ouais. Plus public, là.
OK. Bon, ben pour changer de sujet, dans les dernières années, on a vu un phénomène qui est vraiment le mouvement de dénonciation en ligne. On a vu beaucoup de monde qui, justement, dénonçait leurs agresseurs sur Instagram, sur Facebook, et c'est beaucoup les influenceurs, les personnalités publiques, là, comme... Fait qu'on a beaucoup vu ça. Fait que là, moi, je me demandais, quels sont les principaux dangers des déclarations en ligne?
C'est que quand on dénonce en ligne... On offre une certaine version parce qu'il y a des gens qui vont détailler qu'est-ce qu'ils ont subi. Donc, c'est une version que plus tard, l'avocat de la défense pourrait prendre pour contre-interroger le plaignant. Donc, c'est un peu dangereux en termes de notre propre crédibilité en tant que plaignant de mettre vraiment des détails et tout ça parce que on pourrait se faire... reprocher, par exemple, d'avoir modifié des éléments, d'avoir ajouté des éléments. Donc, c'est dangereux pour autant, je vous dirais, le plaignant que pour la personne qui va être accusée plus tard parce que on ne connaît pas non plus la véracité de cette information-là. N'importe qui peut dénoncer. C'est très difficile d'aller vérifier. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui est très bénéfique, là, en termes de système de justice. Là. Je parle pas en termes là, personnels, mais en termes de système de justice, c'est pas, ça va pas être à notre avantage de faire ça.
Oui, justement, par rapport à notre système de justice, je sais qu'un des droits fondamentaux très importants est la présomption d'innocence. Les déclarations en ligne vont sûrement venir affecter d'une certaine manière cette présomption d'innocence qui, on le rappelle, exige la preuve hors de tout doute raisonnable avant de se faire appeler un agresseur. Comme, alors que ces termes sont employés en ligne, ça doit vraiment affecter ça?
Effectivement, c'est sûr que nous, quand on est avocat puis on voit ça, tu sais, je suis allée voir là, les divers sites là, où on nomme des noms de personnes, on nomme quelle catégorie de crime il y aurait fait. C'est sûr que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas reconnu coupable, oui, ça affecte la présomption d'innocence, puis l'idée qu'on a dans notre charte canadienne que quelqu'un ne devrait pas avoir tous ces inconvénients-là avant d'être officiellement déclaré coupable par une cour, parce que c'est ça qu'on a choisi au Canada, c'est d'avoir une cour de justice pour régler ces problèmes-là. Donc, c'est sûr que quand on voit ça, moi, je trouve ça très... c'est très dommage pour l'idée du système de justice.
Oui, d'ailleurs, vous mentionnez les listes. En fait, au cours de l'été 2020, c'est une survivante de deux agressions sexuelles qui a fondé anonymement la page Facebook « Dis son nom ». Puis, sur cette page Facebook, elle dit que dans le but d'aider d'autres victimes à dénoncer leur agresseur, elle partage publiquement leur histoire. Puis ensuite, elle a fait des listes avec des noms de personnes. Puis pour vous mettre un petit peu en contexte, j'ai un cas d'illustration de diffamation qui a fait une poursuite en, suite au mouvement MeToo avec la page « Dis son nom ». Donc, en effet, Jean-François Marquis a apparu sur la liste sans que des accusations criminelles n'aient été déposées contre lui. Il n'y avait aucune idée qui avait posé ces accusations contre lui. On le qualifiait d'agresseur et il a subi des dommages dans sa vie personnelle. Donc, il a poursuivi pour 50 000 $ en dommages moraux et punitifs pour l'atteinte à sa réputation. Puis, une grosse controverse qui a été là-dedans, c'est que l'administratrice de la page Facebook Dit son nom n'a pas voulu être identifiée en son nom personnel, puis n'a pas voulu non plus dire quelle personne l'avait accusée. Est-ce que vous trouvez que l'anonymat, comme un peu trop grand, peut porter atteinte aux plaignants comme l'accusé?
C'est sûr que, bon, moi, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça, parce que je suis allée voir, là, tu sais, pour préparer qu'est-ce qu'on avait à se dire aujourd'hui, puis quand on regarde ça, là, dis son nom, là, c'est sûr que pour les gens, juste d'avoir agresseurs au-dessus de leur tête, bon, premièrement, leur famille va être au courant de ça, leur employeur, comme M. Marquis, il s'était fait congédier, donc ça va très loin, puis c'est même pas spécifique quels sont les gestes, là, d'ailleurs, là, dans « Dis son nom », dans précisément, là. Alors, ça peut être, là, du, mettons, je vais dire, là, un geste de plus faible gravité, puis on pourrait pas nécessairement savoir c'est quoi exactement, c'est juste agresseur. Donc, ça, moi, ça me dérange un peu, puis jamais dans le système de droit canadien, la personne qui est un plaignant resterait anonyme. On peut pas se défendre. Tu sais, il y a la défense pleine et entière. C'est un principe aussi qui est super important dans notre Constitution. Donc, on doit pouvoir savoir qui nous accuse, de quoi, quand. Puis tout ça, c'est dans le but de justement présenter notre défense. Puis justement, on en a vu des plaintes qui étaient exagéré, des plaintes qui c'était pas tout à fait ça, la réalité, ou des plaintes juste qui, au niveau du fardeau de preuve, ça remplissait pas le fardeau de preuve. Donc, je trouve que c'est très dommageable pour notre société d'avoir justement des pages comme ça, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu un peu leur confiance en le système après certaines décisions judiciaires. Je dis pas que je comprends pas ça, mais le système, on est là pour l'améliorer aussi en tant qu'acteur judiciaire, puis en tant que plaignant, en tant qu'accusé. Parce qu'il faut pas oublier une chose, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui plaident coupables aussi, là. C'est pas juste tout le monde fait des procès, tout le monde va tout contester, c'est pas ça la réalité qu'on voit. Je pense qu'on a tous un travail à faire pour améliorer ce système-là, parce que c'est vrai qu'il est pas parfait, mais il faut qu'il existe ce système-là, parce que sinon on va retourner à l'âge médiéval, là, puis c'est pas ça qu'on veut, le lynchage sur la place publique, là.
Justement, par rapport à ça, c'est quoi le vrai processus de plainte? Qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive? C'est quoi le fardeau de preuve à remplir?
Donc, si on est victime d'un geste, c'est sûr que, bon, le mieux, dans le meilleur des scénarios, dans le meilleur des mondes, c'est de porter plainte le plus rapidement possible, parce que, de un, notre mémoire, ça va être plus frais, on va être capable de donner peut-être plus de détails, et le fait que ce soit très contemporain à un événement, c'est plus facile après ça, là, d'aller présenter cette preuve-là devant un juge. Donc, dans le meilleur des mondes, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui sont capables, là. C'est pas un événement qui est facile à vivre, ça, c'est sûr, là. Donc, allez porter plainte rapidement. Par la suite, il y a un procureur de la couronne qui va évaluer ce dossier-là, ça va lui être soumis. Donc, lui, il va regarder, bon, est-ce que moi, en lisant ce dossier-là, je peux porter des accusations? Donc, est-ce que, pour moi, je suis convaincue, là, que ce crime-là, il a été commis. Est-ce que j'ai des possibilités raisonnables que cette personne-là soit reconnue coupable? Donc, on est vraiment plus dans ce stade-là. Et par la suite, lorsque le procureur va avoir choisi, par exemple, d'autoriser le dossier, là, ça va suivre son cours. Donc, la personne accusée va avoir sa comparution. Ça, c'est la première date de cours. Il va avoir un avocat ou non. Et là, il va recevoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Donc, on appelle ça la preuve. Il va recevoir ça. Il va recevoir ses chefs d'accusation dans lesquels ça va être écrit la date. Ça va être écrit la personne. Puis ça va être écrit qu'est-ce qui est reproché. Donc, est-ce que c'est une agression sexuelle? Est-ce que c'est une agression sexuelle armée? Agression sexuelle grave? Tout ça, ça va être spécifié. Et par la suite, la personne, bon, comme je vous dis, va prendre un avocat ou non. Et là, va regarder les déclarations qui sont contenues là-dedans et tous les autres éléments de preuve qu'on a pu recueillir dans l'enquête. Et là, elle va devoir se défendre avec ça.
Est-ce qu'il y a un délai de prescription pour porter plainte?
Non.
Non, fait que je pourrais me réveiller 10 ans plus tard et être comme « Ok, je suis prête à porter plainte contre mon agresseur. »
Puis on voit ça très souvent. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de dénonciations qu'on appelle historiques. Donc, c'est des dénonciations, par exemple, dans les années 80, dans les années 90. C'est sûr que maintenant, avec le mouvement, les gens peut-être ont le courage de porter plainte davantage ou c'est sûr que c'est difficile à établir parce que chaque personne a vécu son histoire d'une façon différente, mais je pense qu'on encourage beaucoup les gens à dénoncer des comportements maintenant dans notre société actuelle. C'est moins caché qu'avant.
Ouais, puis est-ce que ça se peut que justement, en violence conjugale, il y a certaines personnes qui se rendent pas compte qu'ils ont vécu de la violence conjugale? Parce que, tu sais, quand on est en couple, on peut penser que c'est normal ou...
Je pense que là, il y a une sensibilisation qui est en train de se faire. Il y a une campagne. Je pense que ça va aider beaucoup. Mais oui, je pense que des fois, les gens sont tellement à l'intérieur de leur relation. Ils sont pas objectifs. Donc, ça va être peut-être leurs amis, leur famille qui vont leur faire des commentaires sur leur relation. Puis des fois, ils veulent pas s'en rendre compte. C'est sûr que c'est un phénomène qu'on voit beaucoup.
Vous avez mentionné que de nombreuses années plus tard, ils vont faire des déclarations. Est-ce qu'ils sont désavantagés dans notre système de justice par rapport au fait que c'est des années plus tard, que ce soit pour la preuve ou peu importe?
Bien, tout dépend, par exemple, si la personne est là, exemple, 30 ans maintenant, puis c'est des gestes que, lorsqu'elle était enfant, son témoignage ne sera pas jugé de la même façon parce que la personne était enfant à ce moment-là. Alors, on va exiger, je vais le dire comme ça, là, entre guillemets, moins d'éléments précis parce que faut se fier comme si c'était un témoignage d'enfant. Alors ça, c'est une des différences qu'on voit. Si on est, par exemple, très vieux puis on était quand même adulte, ça va être jugé comme un témoignage d'adulte. Puis tout ça va jouer en termes de crédibilité. Est-ce qu'on est capable encore plus tard d'avoir des bons détails, de se souvenir, par exemple, de la saison dans laquelle c'est arrivé, pas nécessairement de la date parce qu'on demande pas ça nécessairement. On voit souvent dans les chefs d'accusation une période au lieu d'une date quand c'est des crimes historiques parce qu'évidemment, on n'a pas noté dans notre agenda, bon, ça m'est arrivé, à moins que la personne ait un journal intime. On a déjà vu ça, mais c'est plus rare. Là. Donc, c'est sûr qu'en termes de crédibilité, il va falloir apporter des détails. Là.
Par rapport à l'accusé maintenant, j'aimerais savoir quels sont les droits principaux qu'un accusé de violence conjugale doit savoir et garder en tête en tout temps?
Bon. La présomption d'innocence, on en a parlé tantôt, c'est tellement un droit qui est important là, dans notre charte. C'est sûr qu'en matière de violence conjugale, c'est tellement large. Là. Il faut juste se rappeler qu'on a le droit d'être représenté parce que quand on va subir un procès, par exemple, avec un partenaire intime qui va être le plaignant, on ne peut pas le contre-interroger nous-mêmes. Un procureur de la Couronne va faire une requête pour nous empêcher de le contre-interroger nous-mêmes parce qu'on peut très bien comprendre la situation, et là, entre guillemets, d'un agresseur qui va contre-interroger sa victime, entre guillemets, parce qu'on n'est pas encore victime au stade du procès, mais on peut voir l'image, puis ça dérange. Donc, c'est pour ça qu'on a un système qui permet de désigner un avocat pour faire le contre-interrogatoire. Donc, ça, c'est un droit, c'est peut-être plus un droit du plaignant, mais ça va aider les accusés aussi qui, des fois, ils n'ont pas vraiment les moyens d'avoir un avocat. Ils ne vont pas être admissibles à l'aide juridique, par exemple. Donc, un avocat, ça coûte cher au privé. Alors, souvent, on va se tourner vers ça. Au moins, on va avoir quelqu'un pour nous. Ben, c'est pas un rôle de conseil quand on est là juste pour le contre-interrogatoire, mais souvent, on va voir des avocats qui vont aider un petit peu plus la personne pour l'orienter aussi, dans comment ça se passe, là, une procédure à la cour.
Mais pour le reste des procédures, puis à la cour, est-ce que c'est possible de se représenter seul?
On pourrait se représenter seul pour le reste des procédures, effectivement. C'est un droit aussi qu'on a au Canada de se représenter seul.
Puis, par rapport aux condamnations possibles, j'imagine que ça va dépendre selon ce qu'on a nommé là, un petit peu là, les sortes de voies de fait, etc. Mais quelles en sont les conséquences sur...
En fait, c'est sûr qu'on s'expose à des peines. Ça va de l'absolution jusqu'à la peine d'emprisonnement. Donc, entre ça, c'est un très large spectre. On va avoir des gens qui ont un profil excellent, par exemple, des jeunes individus qui sont des travailleurs, qui n'auront pas d'antécédents, qui vont avoir été chercher de l'aide, donc qui vont avoir appelé des organismes de violence, comme le Seuil, qui vont avoir fait des thérapies. Ces gens-là vont bénéficier de peines beaucoup plus clémentes. Et là, on peut parler justement d'absolution, on peut parler de travaux communautaires, de dédommagement, de dons à des organismes de charité. Puis, on peut aller aussi à des gens qui sont en matière de récidive. Ils ont d'autres antécédents en matière de violence. Par exemple, eux vont avoir... ça va plutôt pencher vers des peines d'emprisonnement à ce moment-là.
Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du processus de plainte, puis lors d'un procès, j'aimerais parler d'un documentaire qui a récemment critiqué ouvertement le système de justice actuel en remettant en question les techniques employées lors des interrogatoires, par exemple, ou dont la prémisse est « Pourquoi plusieurs victimes de crimes sexuels ont-elles l'impression de devoir être parfaites pour que leur dénonciation mène à une condamnation? » Je me demandais, en tant qu'avocate qui baigne dans le domaine depuis plusieurs années, que pensez-vous de ce documentaire-là?
C'est sûr que même mon association à moi des avocats de la défense a critiqué ce documentaire-là parce que les statistiques qui étaient rapportées dans ce documentaire-là, ça représentait pas la réalité. Donc, c'est pas vrai de dire, là, j'ai vu 2 sur 10 dossiers qui étaient autorisés. C'est plutôt 7 sur 10. Ça, vous avez fait les recherches. Donc, juste là, c'est très décourageant pour quelqu'un qui va écouter ce documentaire-là de penser qu'effectivement, c'est sûr que mon dossier va pas être autorisé. Il y a tellement peu de dossiers qui sont autorisés. Je pense pas, ça représente pas du tout là, la réalité. Puis je pense aussi que les procureurs de la Couronne qui entendaient ce documentaire-là, c'est un peu choquant, je dirais, de faire rapporter des statistiques qui ne représentent pas la réalité.
Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, mais le documentaire, c'est « La victime parfaite ». Je suis désolée pour cet oubli. D'ailleurs, Maître Michel Lebrun, qui est président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense, a déposé une plainte au nom des associations au sujet de ce documentaire, qui est encore en onde, d'ailleurs, avec les chiffres qui sont pas véridiques. Vous avez mentionné le 2 sur 10 plaintes qui se transforment finalement en 7 sur 10 au DPCP. C'est vraiment énorme. Il y a aussi, on a vu un avocat criminaliste qui a dit « Ah, oh, j'ai jamais perdu une seule cause dans ma vie pour comme décourager les victimes », qui était faux. Finalement, juste une simple recherche sur ce qui a dit que ben non, il y en a perdu, puis voilà. Puis on présente aussi un ex-avocat qui a été radié du barreau depuis plusieurs années parce qu'il a fait de multiples infractions reliées à la malhonnêteté. Donc, il y a une certaine... le documentaire a été un peu apporté de façon biaisée, là, si je peux bien comprendre, là.
À mon avis personnel, oui. Je pense que le propos est très pertinent. Par contre, c'est pertinent là de parler de ça, puis de justement comment les plaignants vivent le processus judiciaire. C'est pertinent de mettre ça sur la place publique. C'est très pertinent. Par contre, j'aurais aimé ça, moi, voir justement des gens qui sont présentés, qui vont plaider coupables, parce qu'il y en a beaucoup qui plaident coupables. Puis on a des processus, des fois, de pardon qui s'enclenchent. Il y a des belles choses qui se passent, là, des fois, dans les salles des palais de justice. Donc, c'est sûr que ça serait intéressant que les gens viennent s'asseoir aussi pour voir comment ça se passe pour vrai, parce que c'est pas toujours des cauchemars. C'est pas toujours le petit détail qui va faire que la personne perd sa crédibilité. C'est pas ça qu'on voit en majorité, je vous dirais, là.
Est-ce que vous pouvez un peu élaborer, je sais pas, peut-être avec un cas d'illustration ou peu importe, parce que j'aimerais ça savoir, parce que personnellement, moi aussi, je pensais que c'était vraiment un cauchemar vivre ces procédures.
Mais je pense qu'effectivement, c'est jamais agréable pour personne, on va être honnête, mais je pense qu'il y a plusieurs styles aussi de participants au système judiciaire. Donc, il y a des gens qui vont pas démontrer de l'agressivité envers le plaignant quand il va témoigner. Il y a des gens qui vont juste poser leurs questions juste pour connaître la vérité. Puis, on représente un client, mais on n'est pas là non plus pour démolir une personne. C'est pas vraiment ça notre rôle, là. Notre rôle, c'est de présenter la meilleure défense. Moi, je parle en tant qu'avocat de la défense, là. C'est de présenter les éléments qui sont en faveur de notre client. Et puis, c'est sûr que notre client aussi nous dit des éléments, là. Donc, lui aussi, il y a des choses à dire. Donc, le processus, il est pertinent pour lui aussi, là. Souvent, ces deux personnes-là vont être entendues. Il a le juge au bout du compte. Il y a un exercice à faire. Donc, lui, il doit se demander, de un, lorsque j'entends le témoignage de l'accusé, est-ce que je le crois? Et si je le crois, monsieur, il doit être, monsieur ou madame, là, on va le, parce que ça peut être aussi des dames là, qui sont accusées d'agression sexuelle, il ne faut pas non plus masculiniser ça à 100%. Là. Donc, est-ce que je crois cette personne-là? Et si je le crois, acquitté. Ensuite de ça, je vais regarder son témoignage, puis même si je le crois pas, est-ce que la preuve que j'entends me soulève un doute raisonnable? Puis tu sais, si la réponse, ça me soulève un doute, bien la personne doit être acquittée aussi. Donc, le juge doit quand même passer au travers de certaines étapes. C'est pas vrai qu'on choisit des versions. Tu sais, il faut que ça soit chacun des éléments essentiels. Est-ce que c'est prouvé hors de doute raisonnable? Puis c'est ça le fardeau, puis c'est ça qui devrait, que ça devrait tout le temps être, là. Il faut qu'il y ait un standard, là, qui soit établi, là.
Puis par rapport au tribunal, par exemple, pour les violences à caractère sexuel, est-ce que vous croyez qu'il va avoir une meilleure comme gestion par rapport à ça, d'éviter que l'avocat de la défense attaque ou peu importe?
Bien, je pense pas que ça va être le rôle non plus de ce tribunal-là, malheureusement. Le tribunal, je pense que c'est plus en termes de gestion. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est avoir moins de délais. On veut que les dossiers connaissent des fins plus rapides, que ça prenne pas 3 ans, qu'un plaignant est dans ce système-là, qui est l'accusé aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, il n'y a pas juste le plaignant qui attend, là, des fois, il y a l'accusé qui attend, puis sa vie est mise en suspens, souvent. Puis, on ne parlera pas aussi, il y a des gens là, en matière d'immigration qui ont des statuts particuliers, puis qui vont voir leur statut changer là, si jamais ils ont une reconnaissance de culpabilité. Donc, il y a beaucoup d'enjeux d'un côté et de l'autre. Mais je pense que c'est vraiment plutôt au niveau des délais qu'on essaie d'instaurer un tribunal spécialisé.
Bon, super. Maintenant, j'aimerais ça revenir au programme d'aide et de gestion de colère. En Estrie, notamment, il en existe plusieurs, notamment l'organisme Momentum qui offre des services d'aide aux hommes, justement, en difficulté. On a la maison Oxygène qui offre de l'hébergement temporaire aux pères et à leurs enfants, justement, qui sont justement dans des situations difficiles. Et le Seuil de l'Estrie qui offre des programmes de gestion de colère. Mon question reliée à ça, c'est est-ce que la Cour peut obliger un accusé à faire recours à ces services, notamment, comme mettons, en question de conditions de remise en liberté ou des affaires similaires?
En termes de conditions de remise en liberté, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne doit accepter ces conditions de remise en liberté. Parce que le juge, quand il, mettons, on négocie entre avocats et on dit, bon, moi, je propose certaines garanties pour la remise en liberté de mon client, dont faire des ateliers au Seuil. Bien, le juge, à la fin de la lecture des conditions de remise en liberté, va demander à l'accusé, est-ce que vous êtes en accord de respecter ces conditions-là? Donc, ça reste un accord. Si la personne dit non, on ne peut pas l'obliger, là. Mais c'est sûr que ce qu'on voit, c'est que cette étape-là, durant les procédures, est vraiment importante pour les gens, autant du bord du plaignant que de l'accusé. Ça peut apporter tellement au débat. Et puis, des fois, ça va se conclure par un plaidoyer de culpabilité parce que la personne comprend quelles actions elle a fait, pourquoi c'est pas autorisé dans notre système. Puis, aussi, du côté des accusés, des fois, ils vont pas voir leur comportement, à quel point c'est nocif. Ils vont pas nécessairement comprendre les impacts chez le plaignant. Des fois, des simples ateliers comme ça vont vraiment apporter beaucoup. Puis, tu sais, ça, c'est autant des participants que pour la société plus tard, là. Donc, je réponds, ça prend beaucoup de temps pour répondre, mais c'est tellement quelque chose qu'on privilégie, nous, en tant qu'avocat de la défense.
Donc, ça peut beaucoup aider le dossier, de ce que j'en comprends.
Tu sais, ça aide non seulement la personne, mais c'est ça, au bout du compte, la personne, si elle enregistre un plaidoyer ou si elle est reconnue coupable, ça va aussi affecter sa sentence. Donc, les juges vont être plus portés à donner des sentences qui vont refléter le travail que la personne a fait durant les procédures. Donc, ici au Canada, c'est un facteur là, à prendre en considération la réhabilitation. C'est codifié. Donc, le juge, il doit regarder si la personne a fait des efforts durant le procédé là, judiciaire.
Mais j'imagine que ça doit être la situation idéale, si on peut dire, entre guillemets, un accusé qui comprend exactement ses actes puis qui comprend que le système de la justice est là comme pas nécessairement pour juste lui taper sur les doigts, mais aussi pour toute une société derrière, puis après ça, qui est prêt à faire les efforts nécessaires pour, pas payer sa dette, là, mais tu sais, pour
ça. Ben, effectivement, c'est, tu sais, on doit redonner à la communauté, c'est dans les principes du code, puis il faut dénoncer un comportement, il faut le dénoncer, puis ça, on le dénonce, là, envers toute la société. Parce qu'il faut que les gens voient que commettre ce geste-là, ça va emporter des conséquences. Mmh. Puis il faut dissuader la personne elle-même, mais il faut aussi passer un message. Donc ça fait partie du code criminel. Puis c'est ça. Le retour à la société, c'est vraiment, moi, ce que je pense, c'est un facteur qui est très important au terme là, d'un dossier judiciaire, qu'on ait d'une quelconque façon redonné à la société. Qu'est-ce qu'on a fait, tu sais?
Puis, est-ce que vous croyez que notre système est adapté au retour à la société ou on met trop d'emphase sur, comme justement, le avant, mais pas assez sur la réhabilitation dans la société après?
Pour ma part, c'est comme ça que je conduis mes dossiers. Moi, je suis vraiment dans la proactivité. Ce que je vais faire, c'est que je vais toujours conseiller des organismes à mes clients qui en ont besoin et qui veulent. C'est sûr qu'ils doivent vouloir. S'ils ne veulent pas, on ne peut rien faire. Mais... tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de problèmes sous-jacents à une infraction criminelle. Par exemple, il y a des gens qui vont souffrir de problématiques de toxicomanie, mais on les pointe vers des ressources. Donc, durant tout le processus, ça leur sert à faire ce travail-là sur eux-mêmes. Et souvent, les gens, ils sont vraiment contents par la suite de tout le progrès qu'ils ont accompli. Et les juges, de ce que je vois dans mon expérience, félicitent les gens qui sont capables de se prendre en main puis qui ont fait vraiment, des réalisations sur leur propre comportement puis comment ça peut affecter les autres.
Est-ce que, justement, par rapport à la toxicomanie, la consommation, c'est une grosse partie des dossiers que les voies de fait ont été causées dans ce contexte-là ou c'est plus une exception?
En fait, en matière, disons, on y va large. Voies de fait, il y a énormément des gens avec des problématiques de consommation. Voies de fait en matière conjugale, ça, c'est autre chose, là. Je dirais pas que c'est tout le temps en consommation, loin de là. Mais c'est des problématiques, par exemple, la santé mentale, la toxicomanie, c'est des problématiques qu'on voit beaucoup en arrière d'un dossier judiciaire au sens large.
Est-ce que ça peut affecter le dossier, justement, être justement en situation où... on struggle avec l'alcoolisme ou avec des problèmes de santé mentale?
Parce que quand on est un accusé, puis justement, on a ça en arrière de nous comme bagage, oui, ça va affecter notre culpabilité morale. Donc, quelqu'un qui serait tout à fait à jeun, aucune problématique de santé mentale, qui commettrait un crime, versus la personne, par exemple, en situation d'itinérance, qui souffre d'alcoolisme, puis qui est plus fragile... en situation de santé mentale, cette personne-là, c'est sûr que sa sentence va être adaptée à elle parce qu'ici, au Canada, on n'est pas là pour punir un crime, on est là pour punir une personne. Donc, on individualise la sentence qu'on va donner. Donc, c'est sûr que tous ces éléments-là chez une personne vont être analysés par le juge et ils vont être présentés justement par son avocat pour en venir à la peine qui va être appropriée pour cette personne-là, en considérant aussi le crime que cette personne-là a commis. Mais, mettons, deux personnes ayant commis le même crime avec des backgrounds très différents vont recevoir des peines différentes, nécessairement.
OK, super. J'aimerais finalement retourner sur la question de l'ordonnance du 810. Vous l'avez un peu mentionné plus tôt, mais j'aimerais savoir plus en détail, c'est quoi le processus et la pertinence de cette ordonnance en matière de violence conjugale?
C'est qu'un 810, ce que ça nous offre comme possibilité, c'est de faire une plainte privée. Donc, ce ne sera pas le procureur de la Couronne qui va être avec nous dans ce dossier-là. On peut se prendre un avocat ou on peut se représenter seul. Donc, si la personne qui choisit de faire cette plainte-là a des craintes raisonnables pour sa sécurité ou celle d'un membre de sa famille. Et là, on ratisse large. Ça peut être des craintes en matière psychologique, ça peut être des craintes physiques, parce que la sécurité, ça englobe une très grosse partie. Alors, si on a ces craintes-là envers un individu, on peut demander cette ordonnance-là à un juge, et ce que ça va faire, c'est qu'il y a des durées que le juge va déterminer si il est en accord avec la demande. Et pendant cette durée-là, la personne va avoir des conditions à respecter. Donc, elle ne va pas devoir s'approcher de nous. Des fois, on établit un rayon. Pardon. On établit un rayon ou bien on dit ne pas se trouver au milieu de travail, au lieu d'études, au domicile. Ça va vraiment nous protéger de cette façon-là, mais on peut ajouter des conditions comme faire un suivi. Mais c'est sûr que encore une fois, la personne, elle doit vouloir faire ce suivi-là, sinon c'est très difficile à imposer ça à quelqu'un. Mais cette ordonnance-là, en gros, si le juge en vient à la conclusion qu'il est justifié, nous, en tant que... là, on est demandeur, on n'est pas plaignant. En tant que demandeur, ça va nous protéger pendant ce temps-là. Et si la personne brise ça, c'est une infraction criminelle de briser ça. Alors que la personne qui le reçoit, le 810, c'est pas une infraction criminelle en tant que telle, c'est vraiment une mesure de protection. On n'appelle pas ça une infraction criminelle parce qu'on plaide pas coupable, c'est pas ça. C'est une mesure préventive dans le code.
Parfait. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça clôt le sujet. On pourrait en parler encore pendant des heures. C'est vraiment un sujet qui est très pertinent, très intéressant. On va s'arrêter là. Je voulais vous remercier, Maître Beauchemin, d'être venu, puis également remercier la radio CFAC et Momentum, qui est notre organisme partenaire avec qui on fait affaire. Donc, merci à toutes ces belles personnes d'être présentes pour la réalisation de ce podcast.
Merci beaucoup de m'avoir reçue. Je ne vais pas te couper, Alice. mais je pense que c'est vraiment un sujet, on doit continuer d'en parler. Puis il y a toujours des améliorations à être faites, autant du côté de l'accusé que du côté des plaignants. Puis tu sais, je pense qu'il faut trouver ensemble des pistes de solutions parce qu'on ne peut pas juste se mettre à faire notre propre justice. Il y a un système pour ça, puis il faut l'utiliser puis l'améliorer.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus.
Oui, merci beaucoup. Donc, c'est tout pour ce podcast.